enfin du son et de l'image dans ce théâtre d'ombre. Il ne s'agit pas dans ces pages de revenir sur ces points connus, de mettre au jour des éléments nouveaux de cette biographie balisée et travaillée à l'envi. Il s'agit de voir quelles leçons de commandement on peut tirer de la vie et des écrits de Charles de Gaulle. De Gaulle fut un chef. Il le fut dans sa vie et s'occupa lui-même, à travers ses livres, de la mise en récit de cette vie, donc de l'art d'être chef. Nous avons sous les yeux les travaux pratiques et le cours. Certes, les livres du général ne traitent pas explicitement de l'art de diriger. Mais ils sont partout imprégnés de cette question, tant l'art de commander fut le souci de ce militaire déposé au sommet de l'État comme on le serait par l'hélicoptère au sommet d'une falaise infranchissable. Et comme l'auteur n'est jamais avare de réflexion sur les événements qu'il traverse, comme il préfère montrer comment il dirige l'événement plutôt qu'il ne le subit, ses livres fourmillent de leçons de commandement, en pointillés, des îles giboyeuses semées sur un océan de talent. De même, sa vie recèle d'innombrables situations où il montra qu'il avait en main le don du pouvoir. Il ne fut certes pas le seul, et nombreux sont les hommes de pouvoir qui ont excellé dans leur art. Admire-toi à Boulanger de savoir faire du pain. Il y a un art de présider la Ve République propre à De Gaulle, comme on pourrait en décrire un propre à Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, ou plus récemment Nicolas Sarkozy. Dégagé du clapotis bourbeux de la polémique du moment, toujours violente il va sans dire, émondé de la scorie des passions des hommes, souvent excessives donc insignifiantes, chacun des présidents pourrait servir d'exemple pour des leçons de commandement. Une fois distillé, le jus restant ne manquerait pas de caractère ni de goût. Mais dans le cas du général de Gaulle, ce président permanent que l'on ne désignait que par son grade militaire pourtant attribué à titre provisoire, le commandement est relevé dans la pratique d'un goût d'inattendu qui en complique le décryptage et accentue l'intérêt. Bien souvent, le personnage n'est pas là où on l'attend et ne réagit pas comme le fait un homme politique chenu et raisonnable. Ce n'est pas l'homme du juste milieu, façon René Coty sortant de la sieste, mais de l'excès. Ce n'est pas le parangon du bon sens racis, modèle Vincent Auriol écrivant son journal tous les soirs, mais le modèle de la créativité en acte. Ce n'est pas un exemple de prudence aristotélicienne, façon Paul Reynaud tremblant devant le moindre képi, mais le culot en liberté. Voilà de quoi donner du goût à la potion. Est-il besoin de rappeler que l'art de diriger est une compétence cruciale pour l'avenir des sociétés comme des entreprises ? On voit régulièrement des entreprises qui se redressent ou à l'inverse qui s'effondrent à la suite d'un changement de dirigeant. De même, certains hommes politiques réussissent à faire des réformes, impriment leur marque quand d'autres s'embourbent dans toutes leurs tentatives. Il existe un art de diriger et cet art imprime à la longue des différences significatives à ce qui arrive aux sociétés et aux entreprises. Qui peut soutenir que si le comte d'Halifax avait été Premier ministre à la place de Churchill au Royaume-Uni en mai 1940, comme cela aurait dû arriver d'ailleurs, la guerre aurait pu être gagnée en 1945. Qui peut penser que si De Gaulle avait été président du Conseil au même moment en lieu et place de Paul Reynaud, la France aurait connu l'irrémédiable déshonneur de l'armistice et de la collaboration? Lord Halifax, Paul Reynaud, des hommes politiques honorables, dotés sans aucun doute d'intelligence, de discernement et de bonne volonté. Ce qu'une certaine pratique de la démocratie produit de mieux. Churchill, De Gaulle, considérés en 1940 comme des caractériels dangereux, obsessionnels et incapables d'écoute. Des hommes à foucade, inquiétants, imprévisibles. Des hommes auxquels il serait irresponsable de confier de hautes responsabilités. Ce parfum de soufre attaché à leurs pas ne les quittera pas, non plus que les bruits de claquements de porte. Ces hommes-là ont pesé de leur poids personnel sur l'histoire par une façon d'agir et de penser qui leur était propre, par leur art de diriger. Avec De Gaulle, l'histoire passe du nécessaire au contingent. Charles De Gaulle, écrit son biographe britannique Jonathan Fenby, pose un énorme problème à ceux qui nient que l'histoire est faite par de grands hommes. À ceux qui pensent que les conditions socio-économiques et les rapports de force déterminent ce qui va arriver. Si Hitler avait été un peu moins imprudent, si Churchill avait été un peu moins déterminé ou un peu plus prudent, le fascisme